Assise dans le fauteuil à bascule en osier, son ouvrage interrompu sur les genoux, Amaranta était en contemplation devant Aureliano José, qui, le menton barbouillé de mousse, affilait le rasoir de barbier sur la lanière de cuir afin de se raser pour la première fois. Il ne réussit qu'à se faire saigner ses petits boutons, à se couper la lèvre supérieure en essayant de se tailler une moustache de duvet blond, et finalement resta tout comme il était auparavant. Mais cette laborieuse opération laissa à Amaranta l'impression qu'à compter de ce moment, elle s'était mise à vieillir. « Tu es pareil à Aureliano quand il avait ton âge, » lui dit-elle. « Te voilà déjà un homme. » Il l'était depuis bien longtemps. Depuis ce jour, déjà lointain, où Amaranta, croyant qu'il était encore un enfant, continua à se déshabiller devant lui dans les bains comme elle avait toujours fait, comme elle avait pris l'habitude de le faire après que Pilar Ternera le lui eût confié pour finir de l'élever. La première fois qu'il la vit, la seule chose qui frappa son attention fut la profonde dépression entre ses seins. Il était alors si innocent qu'il s'enquit de ce qui lui était arrivé. Et Amaranta fit semblant de se creuser la poitrine du bout des doigts en répondant « On m'en a retiré des tranches et des tranches et des tranches. » Quelque temps plus tard, lorsqu'elle fut remise du suicide de Pietro Crespi et se baigna de nouveau avec Aureliano José, celui-ci ne porta plus ses regards sur cette dépression, mais éprouva un tressaillement inconnu à la vision des seins splendides aux mamelons violets. Il continua à l'examiner, découvrant l'un après l'autre chaque empan de son intimité miraculeuse, sentant sa peau se hérisser par cette contemplation, comme se hérissait sa peau à elle au premier contact de l'eau. Depuis sa tendre enfance, il avait pris l'habitude de quitter son hamac pour se retrouver au matin dans le lit d'Amaranta, dont le contact avait la vertu de dissiper la peur du noir. Mais à partir du jour où il fut conscient de sa nudité, ce ne fut plus la peur du noir qui le poussa à venir se glisser sous sa moustiquaire, mais le besoin de sentir la tiède respiration d'Amaranta au lever du jour. Un matin, vers l'époque où furent repoussées les avances du colonel Guérinaldo Marquez, Aureliano José se réveilla avec l'impression de manquer d'air. Il sentit les doigts d'Amaranta comme des petits vers chauds et impatients qui cherchaient son ventre. Feignant de dormir, il changea de position pour éliminer toute difficulté et sentit alors la main, débarrassée de la bande noire qui l'entourait, plonger comme un mollusque aveugle entre les algues où nichait son attente. Bien qu'il fît semblant d'ignorer ce que tous deux savaient, et ce que chacun savait que l'autre savait, ils demeurèrent unis depuis cette nuit-là par une inviolable complicité. Aureliano José ne pouvait trouver le sommeil tant qu'il n'entendait pas la valse de minuit à la pendule de la salle commune, et la vieille fille, dont la peau commençait à se rembrunir, ne connaissait pas un moment de repos qu'elle ne sentît se glisser sous sa moustiquaire ce somnambule qu'elle avait élevé sans imaginer qu'il serait un jour un palliatif à sa solitude. Dès lors, non seulement ils dormirent ensemble, tout nus, échangeant d'épuisantes caresses, mais ils se mirent à se poursuivre dans tous les coins et recoins de la maison et à s'enfermer dans les chambres à toute heure du jour, dans un état de surexcitation permanente, sans relâche aucune. Ursula manqua les surprendre un après-midi où elle fit irruption dans la réserve à grains, au moment où ils commençaient à s'embrasser. « Tu l'aimes beaucoup, ta tante ?» demanda-t-elle en toute innocence à Aureliano José. Il répondit que oui. « Tu fais bien, » conclut Ursula, et elle acheva de peser la farine pour le pain avant de s'en retourner à la cuisine. Cet épisode sortit Amaranta du délire. Elle se rendit compte qu'elle était allée trop loin, que le temps était passé où elle jouait à échanger des bécots avec un enfant, mais qu'elle était en train de s'enliser dans une passion automnale, pleine de dangers et sans avenir, à laquelle brusquement elle coupa court. Aureliano José, qui finissait alors son instruction militaire, finit par se rendre à la réalité et s'en fut dormir à la caserne. Tous les samedis, il allait avec les militaires à l'établissement de Catarino. Il se consolait de sa brutale solitude et de son adolescence prématurée avec des femmes à l'odeur de fleurs mortes, qu'il idéalisait dans les ténèbres et métamorphosait en Amaranta, moyennant de terribles efforts d'imagination. Peu après, on se mit à recevoir des nouvelles contradictoires de la guerre. Alors que le gouvernement lui-même reconnaissait les progrès de la rébellion, l'état-major de Macondo était confidentiellement informé de l'imminence d'une paix négociée. Au début d'avril, un émissaire spécial se présenta au colonel Guérinaldo Marquez. Il lui confirma que les dirigeants du parti avaient pris contact avec les chefs rebelles de l'intérieur et étaient à la veille de conclure l'armistice en échange de 3 ministères accordés aux libéraux, d'une représentation minoritaire au Parlement et de l'amnistie générale des rebelles ayant déposé les armes. L'émissaire était porteur d'un message hautement confidentiel du colonel Aureliano Buendía qui n'était pas d'accord avec les clauses de l'armistice. Parmi les meilleurs de ces hommes, le colonel Guerinaldo Marquez devait en sélectionner 5 et se préparer à quitter le pays avec eux. L'ordre fut exécuté dans le plus grand secret. Une semaine avant que l'accord ne fût proclamé, au milieu d'une tempête de bruits contradictoires, le colonel Aureliano Buendía et 10 officiers de confiance, parmi lesquels le colonel Roque Carnicero, débarquèrent en douce à Macondo passé minuit, dispersèrent la garnison, enterrèrent les armes et détruisirent les archives. À l'aube, ils avaient quitté le village avec le colonel Guerinaldo Marquez et 5 officiers. L'opération fut si rapide et discrète qu'Ursula n'en eut connaissance qu'à la dernière minute, lorsqu'on vint frapper à petits coups à la fenêtre de sa chambre et murmurer « Si vous voulez voir le colonel Aureliano Buendía, allez immédiatement jeter un coup d'œil à la porte. » Ursula bondit hors de son lit et sortit sur le seuil en chemise de nuit. Et c'est à peine si elle réussit à percevoir le galop de la petite troupe de cavaliers qui abandonnait le village au milieu d'un silencieux nuage de poussière. Ce n'est que le lendemain qu'elle apprit qu'Aureliano José était parti avec son père. 10 jours après qu'une déclaration commune du gouvernement et de l'opposition eut annoncé la fin des hostilités, arrivèrent les nouvelles du premier soulèvement armé du colonel Aureliano Buendía sur la frontière occidentale. Ses troupes insuffisantes et mal équipées furent dispersées en moins d'une semaine. Mais dans le courant de la même année, tandis que libéraux et conservateurs s'efforçaient de convaincre le pays de leur réconciliation, il alluma 7 autres foyers d'insurrection. Une nuit, il canonna Riohacha depuis une goélette, et les soldats de la garnison sortirent de leur lit pour les fusiller en représailles les 14 libéraux les plus notoires de l'agglomération. Il occupa pendant plus de 15 jours un poste frontalier d'où il lança à la nation un appel à la guerre totale. Une autre de ses expéditions s'égara en forêt pendant 3 mois, au cours d'une folle tentative pour traverser plus de 1500 km de contrées vierges et proclamer la guerre jusque dans les faubourgs même de la capitale. Une fois, il se retrouva à moins de 20 km de Macondo et fut contraint par les patrouilles du gouvernement à se replier dans les montagnes toutes proches de la région enchantée où son père, bien des années auparavant, avait découvert le fossile d'un galion espagnol. Vers cette époque mourut Visitación. Elle qui avait renoncé au trône par peur de l'insomnie se donna le plaisir de mourir de mort naturelle. Et sa dernière volonté fut que l'on déterra de dessous son lit ses gages économisés depuis 20 ans et qu'on les envoyait au colonel Aureliano Buendía pour qu'il pût continuer la guerre. Mais Ursula ne se donna pas la peine d'aller extraire cet argent, car à ce moment-là, courait le bruit que le colonel Aureliano Buendía avait trouvé la mort en débarquant près de la capitale de la province. L'annonce officielle, la 4e en moins de 2 ans, fut tenue pour vraie pendant presque 6 mois, car on resta tout ce temps-là sans entendre parler de lui. Soudain, alors qu'Ursula et Amaranta avaient pris à nouveau le deuil par-dessus tous les précédents, arriva une nouvelle insolite. Le colonel Aureliano Buendía était en vie, mais apparemment il avait renoncé à harceler les autorités de son propre pays et s'était rallié au fédéralisme triomphant en d'autres républiques des Caraïbes. Il apparaissait sous des noms différents chaque fois plus loin de sa terre natale. On devait connaître plus tard l'idée qui l'animait alors et qui était l'unification des forces fédéralistes d'Amérique centrale afin d'en finir avec tous les régimes conservateurs de l'Alaska à la Patagonie. Les premières nouvelles qu'Ursula reçut directement de lui, plusieurs années après son départ, consistaient en une lettre chiffonnée et à demi effacée qui lui parvint de main en main depuis Santiago de Cuba. « Nous l'avons à jamais perdu !» s'exclama Ursula à cette lecture. « Il est en passe de se retrouver au bout du monde pour la Noël !» Son interlocuteur, qui fut la première personne à qui elle montra la lettre, était le général conservateur José Raquel Moncada, maire de Macondo depuis la fin de la guerre. « C'est Aureliano, commenta le général Moncada, dommage qu'il ne soit pas conservateur. » Il l'admirait pour de bon. Comme beaucoup de civils conservateurs, José Raquel Moncada n'avait fait la guerre que pour défendre son parti et avait conquis le grade de général sur le champ de bataille bien qu'il n'eût aucune vocation pour les armes. Au contraire, à l'instar de beaucoup de ses camarades de parti, il était antimilitariste. Il considérait les gens d'armes comme des vauriens sans foi ni loi, intrigants et ambitieux, tout juste bons à tenir tête aux civils pour semer le désordre. Intelligent, sympathique, de tempérament sanguin, aimant la bonne chair et fanatique des combats de coq, il avait été à une certaine époque l'adversaire le plus redoutable du colonel Aureliano Buendía. il réussit à imposer son autorité chez les militaires de carrière sur un large secteur du littoral. Un jour, que des convenances stratégiques le contraignirent à abandonner certaines places aux troupes du colonel Aureliano Buendía, il lui laissa deux lettres. Dans l'une, fort longue, il l'invitait à se joindre à lui pour une campagne d'humanisation des combats. L'autre lettre était pour son épouse, qui vivait en territoire libéral, et il la laissa avec prière de la faire parvenir à destination. Dès lors, même durant les périodes de lutte les plus acharnées, les deux commandants organisèrent des trêves pour procéder à l'échange des prisonniers. Au cours de ces pauses régnait une certaine ambiance de fête, et le général Moncada les mettait à profit pour apprendre au colonel Aureliano Buendía à jouer aux échecs. Ils devinrent de grands amis. Ils en arrivèrent même à envisager la possibilité de coordonner les éléments populaires de chacun des deux partis pour mettre fin au rôle déterminant des militaires et des politiciens professionnels et instaurer un régime humanitaire qui utiliserait le meilleur de chaque doctrine. Lorsque la guerre prit fin, cependant que le colonel Aureliano Buendía disparaissait dans les étroits défilés de la subversion permanente, le général Moncada fut nommé corregidor de Macondo. Il revêtit son costume civil, remplaça les militaires par des agents de police sans armes, fit respecter les lois sur l'amnistie et vint en aide à quelques familles de libéraux morts au combat. Il obtint que Macondo fût érigé en municipalité, en devint ainsi le premier maire et développa un tel climat de confiance qu'on ne pensa plus à la guerre autrement que comme un absurde cauchemar du passé. Le père Nicanor, consumé par les fièvres hépatiques, fut remplacé par le père Coronel, qu'on appelait El Cachorro, le petit fauve, vétéran de la Première Guerre fédéraliste. Bruno Crespi, marié à Amparo Moscote, et dont le magasin de jouets et d'instruments de musique ne se lassait pas de prospérer, aménagea un théâtre que les troupes d'acteurs espagnols inclurent dans leurs itinéraires. C'était un vaste foyer en plein air, avec des bancs en bois à dossier, un rideau de velours orné de masques grecs et trois guichets en forme de tête de lion par les gueules béantes desquelles on vendait les billets. Ce fut aussi vers cette époque qu'on répara les bâtiments scolaires. L'école fut prise en charge par Don Melchor Escalona, un vieux maître envoyé de la région du Marigot, qui obligeait les mauvais élèves à marcher à genoux dans la cour pleine de gravier et faisait manger du piment aux bavards avec l'accord tacite des parents. Aureliano le second et José Arcadio le second, les capricieux jumeaux de Sainte-Sophie de la Piété, furent les premiers à s'asseoir dans la salle de classe, munis de leur ardoise, de leurs crayons d'ardoise et de leurs petites timbales en aluminium gravées à leur nom. Remedios, héritière de la pure beauté de sa mère, commençait déjà à être connue sous le nom de Remedios la Belle. Malgré le temps, les chagrins accumulés, les deuils qu'il avait fallu prendre les uns sur les autres, Ursula se refusait à vieillir. Aidée par Sainte-Sophie de la Piété, elle avait donné une nouvelle impulsion à son commerce de pâtisserie. Et non seulement elle récupéra en peu d'années la fortune que son fils avait dilapidée à la guerre, mais elle farcit à nouveau d'or pur les calebasses enterrées dans sa chambre. « Tant que Dieu me prêtera vie, avait-elle coutume de dire, l'argent ne manquera pas dans cette maison de fous. » On en était là lorsqu'Aureliano José déserta des troupes fédéralistes du Nicaragua, s'enrôla dans l'équipage d'un vaisseau allemand et fit son apparition dans la cuisine de la maison, aussi costaud qu'un cheval, brun et velu comme un indien, secrètement résolu à épouser Amaranta. Quand Amaranta le vit entrer, sans qu'il eût rien dit, elle devina sur le champ pourquoi il était revenu. À table, il n'osait se regarder en face. Mais deux semaines après son retour, en présence d'Ursula, il fixa Amaranta et les yeux dans les yeux lui dit « Je n'ai cessé de penser beaucoup à toi ». Amaranta le fuyait. Elle se prémunissait contre les rencontres fortuites. Elle s'arrangeait pour ne pas se séparer de Remedios la Belle. Le jour où son neveu lui demanda jusqu'à quand elle comptait porter la bande noire qui entourait sa main, elle interpréta la question comme une allusion à sa virginité et le rouge qui vint dorer ses joues l'indigna. À son arrivée, elle ferma le verrou de sa chambre, mais il s'écoula tant de nuits pendant lesquelles elle put entendre ses ronflements paisibles dans la chambre voisine qu'elle finit par négliger cette précaution. Un matin, bientôt deux mois après son retour, elle l'entendit pénétrer dans sa chambre. Alors, au lieu de fuir, au lieu de crier comme elle avait prévu de le faire, elle se laissa envahir par une douce sensation de repos. Elle le sentit se glisser sous la moustiquaire, comme il faisait lorsqu'il était enfant, comme il avait toujours fait et ne put s'empêcher d'avoir des sueurs froides et de claquer des dents lorsqu'elle se rendit compte qu'il était complètement nu. « Va-t'en » murmura-t-elle, si anxieuse de connaître la suite qu'elle en étouffait.
Va-t'en, ou je me mets à crier. »
Mais Aureliano José savait alors ce qu'il lui restait à faire, car ce n'était plus un enfant qui a peur du noir, mais une bête de casernement. À compter de cette nuit-là, reprirent ces sourdes batailles sans issue qui se prolongeaient jusqu'à l'aube.
« Je suis ta tante !» murmurait Amaranta épuisé. « C'est presque comme si j'étais ta mère, non seulement par l'âge, mais parce qu'il ne m'a manqué qu'une chose, te donner la tétée. »
Au matin, Aureliano s'échappait et s'en revenait le lendemain bien avant le lever du jour, chaque fois plus excité quand il constatait qu'elle n'avait pas poussé son verrou. Il n'avait cessé un seul instant de la désirer. Il l'avait retrouvée dans les obscures chambres des villages vaincus, surtout les plus abjectes, et identifiait sa présence dans l'odeur de sang séché sur les pansements des blessés, dans cette peur instantanée d'être en péril de mort, à toute heure et en tout lieu. Il l'avait fui, essayant d'annihiler son souvenir non seulement par l'éloignement, mais par un acharnement féroce, incontrôlé, que ses compagnons d'armes qualifiaient de témérité. Mais plus il roulait son image dans le fumier de la guerre, plus la guerre ressemblait à Amaranta. Il endura ainsi son exil, cherchant l'occasion de la tuer avec sa propre mort, jusqu'au jour où il entendit raconter la vieille histoire de l'homme qui avait épousé une de ses tantes, qui, de plus, était sa cousine, et dont le fils finit par se retrouver son propre grand-père. « Est-ce qu'on peut se marier avec une de ses tantes ?» demanda-t-il avec étonnement. « Non seulement on peut, lui répondit un soldat, mais nous sommes en train de faire cette guerre contre les curés pour avoir le droit de se marier avec sa propre mère. » 15 jours plus tard, il déserta. Il trouva Amaranta plus flétrie que dans son souvenir, plus mélancolique et pudibonde, et doublant déjà en fait le dernier cap de la maturité, mais plus fébrile que jamais dans les ténèbres de sa chambre, plus provocante que jamais dans la manière agressive dont elle lui résistait. « Tu n'es qu'une brute !» lui disait Amaranta, acculée par sa meute de bulldog. « Ça n'est pas vrai qu'on puisse traiter ainsi sa pauvre tante, à moins d'une dispense spéciale du pape !» Aureliano José promettait d'aller à Rome, promettait de parcourir l'Europe à genoux et de baiser les sandales du souverain pontife, pourvu qu'elle voulût bien baisser ses ponts-levis. « Il ne s'agit pas seulement de cela !» rétorquait Amaranta. « C'est ainsi que naissent les enfants avec des queues de cochon !» Aureliano José restait sourd à tout argument. « Et quand bien même il naîtrait des tatous !» répondit-il en suppliant. Un matin, avant l'aube, vaincu par l'insupportable douleur de sa virilité contenue, il se rendit chez Catarino. Il trouva une femme au sein flasque, câline et bon marché, qui lui calma le bas-ventre pour quelque temps. Il essaya de traiter Amaranta par le mépris. Il l'apercevait sous la véranda, en train de coudre sur une machine à manivelle, dont elle avait appris à se servir avec une dextérité admirable, et ne lui adressait même pas la parole. Amaranta se sentit libérée d'un poids, et elle-même ne comprit pas pourquoi. Dès lors, elle se mit de nouveau à penser au colonel Guerinaldo Marquez, pourquoi elle se souvenait avec nostalgie des après-midi passés à jouer aux dames, et pourquoi elle en arriva même à le désirer comme compagnon de lit. La nuit où, ne pouvant plus supporter cette comédie de l'indifférence, il s'en retourna dans la chambre d'Amaranta, Aureliano José ne s'imaginait pas à quel point il avait perdu du terrain. Elle le repoussa avec une franche détermination que rien n'aurait pu fléchir et ferma définitivement le verrou de sa chambre à coucher. Quelques mois après le retour d'Aureliano José, se présenta à la maison une femme exubérante, toute parfumée de jasmin, accompagnée d'un enfant de 5 ans. Elle affirma qu'il était le fils du colonel Aureliano Buendia et qu'elle l'amenait pour le faire baptiser par Ursula. Personne ne mit en doute les origines de cet enfant sans nom. Il ressemblait trait pour trait au colonel à l'époque où on l'emmena faire connaissance avec la glace. La femme raconta qu'il était né avec les yeux grands ouverts, portant sur les gens un regard adulte qui paraissait les juger, et que la manière dont il fixait chaque chose sans ciller l'effrayait. « Il est tout pareil, dit Ursula. La seule chose qui lui manque, c'est de faire basculer les chaises rien qu'à les regarder. » On le baptisa du prénom d'Aureliano, mais avec le nom de sa mère, car la loi ne permettait pas qu'il portât le nom de son père avant que celui-ci ne l'eût reconnu. Le général Moncada servit de parrain. Amaranta eut beau insister pour qu'on le lui laissât, afin de finir de l'élever, la mère s'y opposa.